Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur DC Planète pour un nouveau numéro de DC Podcasters News, le podcast du site qui s'occupe de relayer toute l'actualité comics, cinéma, écran, jeux vidéo et produits dérivés des deux dernières semaines depuis le dernier numéro. Je suis Arnaud Kikou et vous écoutez DC Podcasters News numéro 5. Et ce soir, pour m'accompagner, ils sont heureux d'être là, ils sont contents d'être avec moi. J'accueille Noodle.
Rebonjour.
J'accueille Zepli.
Salut, ça faisait longtemps, franchement, qu'on ne s'est pas parlé, tout ça.
Et j'accueille The Riddler.
Bon, la deuxième fois, c'est toujours moins drôle, mais adieu.
mais dis-moi, The Riddler, pourquoi dis-tu adieu? Pourtant, ce n'est pas la fin du podcast.
Alors, en Suisse, c'est une particularité locale de dire adieu pour se dire salut. D'ailleurs, selon Wixfairy, en fait, ça aurait été encore plus drôle si tu avais commencé avec la première news et que je t'avais interrompu pour te faire la petite parenthèse Wiktionary impromptue. Mais alors, selon Wiktionary, la troisième définition, sud de la France, suisse, familier, se dit pour saluer une ou des connaissances de façon amicale.
Exemple. Donne-moi le deuxième exemple.
Ah ouais, le deuxième exemple.
Alors, je vais direct au deuxième exemple. Adieu, on s'enjaille terrible aussi. Ah. Vous êtes vraiment gentil de faire semblant de rigoler parce que vous avez pas la première fois.
Bon alors pour ceux qui se posent parce que les gens se disent mais ils ont pris de la drogue avant de faire ce podcast, faut savoir qu'en fait on l'a déjà enregistré une première fois et qu'un problème technique nous a fait tout perdre, absolument tout. Donc du coup on le refait, on recommence tout, on est fatigué et Zepli a bu ses bières entre-temps et du coup
Attends, j'ai une blague inédite, Ah, on le refait, on recommence, on prend les mêmes, on recommence 9 7 attends, je sais plus mais c'était une chanson de Sniper mais il disait on prend les mêmes, on recommence, on revient choquer la France, quelque chose comme ça.
Ah, ça c'est gravé dans la roche, non, je sais pas.
Ouais,
SNIPER, on vient choquer la France.
Ouais, on avait ça en Suisse aussi, on disait adieu mais on écoutait Sniper.
Eh bien c'est au moins ça vous rattrape votre bagage culturel, c'est déjà ça. Du coup on va commencer sans plus tarder avec une première news, donc accès série télé avec le premier trailer de Preacher qui a été donc diffusé ce week-end alors qu'il y avait la diffusion sur la chaîne AMC d'un épisode de The Walking Dead. Donc un trailer qui avait été teasé auparavant avec une dizaine de secondes, et puis là on a donc une première bande-annonce qui fait une bonne minute et qui permet donc de voir déjà certains aspects de cette adaptation du comics book culte de Garth Ennis et Steve Dillon publié chez Vertigo. Et je crois que c'est Noodle qui a envie de nous en parler pour commencer. Alors vas-y Noodle, lance-toi.
Ah d'accord, alors donc Preacher, oui, donc je vais refaire la même blague, désolé, ça mange à moins, tu vois.
Cette impression de déjà vu.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est le trailer, ça présente en gros le personnage de Jesse Custer, un peu Cassidy. Et donc ce que je disais dans le premier enregistrement, c'est que on retrouve, je trouve, l'ambiance en surface de la série, donc l'aspect western postmoderne, comme ça, les bars, l'alcool, tout ça. Mais ce que je trouve qui manque, c'est le réel ADN de Preacher, qu'on ne retrouve pas dans les... Enfin, on ne voit pas les interactions entre les personnages, on ne reconnaît pas spécialement... Enfin, je ne reconnais pas spécialement Cassidy dans ce que j'ai vu dans le trailer. Ce qu'on nous montre, ça ne me parle pas spécialement par rapport à ce qu'on lit dans le comics, et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est... Là où j'espérais une vraie adaptation de Fanboy, j'ai l'impression qu'ils ont pris quand même quelques libertés, qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus dans l'air du temps et peut-être justement un peu moins edgy que le vrai Preacher. Quoi.
D'accord. Ah, il y a un écho. Fais attention à Noodle. Du coup, Zepli, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé aussi? Est-ce que t'es aussi tout aussi moins emballé? T'as pas envie de t'enjailler comme Noodle?
Alors je suis pas hyper hyper emballé non plus. Par contre, je trouvais que l'acteur principal, donc Dominic Cooper, qui joue Jesse Custer, il avait l'air relativement convaincant dans le rôle. Déjà le costume lui va pas trop mal. L'aspect mal rasé, le cheveu ébouriffé, tout ça, ça passe. Au niveau de la voix, ça m'a l'air pas mauvais. Le Cassidy me gênait un peu parce que je suis pas hyper fan de cet acteur-là qui jouait dans Misfits là, que je trouve finalement assez bah peut-être un peu trop comique en fait. Tu vois, il a une tête qui prête à rire et tout. En fait, je crois qu'il est pas tu vois, il n'est pas à même de d'être assez complexe, peut-être, a priori, hein, pour moi, tu vois, pour représenter tout ce que représente le personnage de Cassidy. Même chose, donc pas d'interaction entre le personnage, surtout, je trouve qu'on n'a pas vu assez de gueule, en fait, parce que Preacher, pour moi, avant tout, c'est aussi des graphismes de Steve Dillon et les couvertures de Glenn Fabry, avec des personnages qui ont vraiment des looks particuliers, notamment les... Bah même les héros, puis surtout les antagonistes, on n'en a vu aucun. Alors, on n'a pas vu le Sense of Killer, on n'a pas vu, je sais pas, Arsface, on n'a pas vu le Allfather d'Aronic, l'espèce de gros dégueulasse, on n'a pas vu Airstar et compagnie. Enfin, moi, je veux voir ça, en fait. Je veux voir si
oui.
Ils ont respecté, ou alors même la grand-mère de Jesse, quoi, tu vois.
C'est pas quelque chose qu'on retrouve, mais en même temps, c'est peut-être pas des choses qu'ils peuvent nous montrer, vu qu'à
non,
priori, c'est des images qui seraient basées juste du pilote,
c'est
tu
ça.
Vois.
Il n'y a que le pilote. Après, tu vois, ils auraient pu faire des flashbacks de la grand-mère de Jesse, par exemple. Tu vois, essayer de jouer sur le traumatisme dès le départ. Enfin, je sais pas comment ils vont présenter la série. Et surtout aussi, ce qui était étrange, c'est qu'on a vraiment pas l'impression pour le moment que ça va se passer en dehors de la ville de Jesse, quoi. Je pense que le pilote, il va entièrement se dérouler dans la ville. Alors que finalement, si tu prends le comics, dès l'épisode 1, la quête est lancée, quoi.
Et peut-être que justement que la série veut profiter de ce format et du coup d'avoir potentiellement plusieurs saisons pour développer un peu plus les côtés vraiment prêtres de Jesse Custer, sachant que a priori il va quand même avoir son pouvoir spécial de façon très rapide, sachant qu'il pourrait aussi plus miser sur les capacités qu'il obtient avec son pouvoir et faire de nouvelles situations par rapport à ça avant, mais sachant que le synopsis nous parle quand même d'une quête pour aller littéralement à la rencontre de Dieu, ce qui se veut quand même assez fidèle à la trame
c'est la même
de
chose.
Non, non, mais moi, enfin,
vas-y, oui.
Sans vouloir t'interrompre, je pense que déjà l'aspect Dieu, même si c'est la trame de fond, au fond, il développe des aspects fin, secondaires. Il se concentre plus sur les péripéties qu'il y a en chemin et puis sur la relation entre les personnages qu'au fond, le fait de chercher Dieu. Enfin, tout le monde dit, ouais, c'est un manifeste contre la chrétienté. Enfin, je pense que c'est un aspect qui est pas. Qui est peut-être en arrière-plan, mais c'est pas c'est pas avant tout un discours sur la religion, et puis l'aspect je vais chercher Dieu pour lui rendre des comptes est assez secondaire. Un autre truc que je voulais dire sur ce que t'as dit, merde, j'ai oublié, chier, c'était quoi? Alors, redis ce que t'as dit.
Il est sérieux là?
Non, mais j'ai oublié, hein. J'ai commencé mon discours en voulant parler d'un truc de précis, et ça me saoule tellement d'avoir oublié.
Pourtant, sachant que t'en as bien parlé il y a une demi-heure, je sais pas, et t'arrives à oublier ce que tu racontais.
Oui, non, j'ai raconté un truc inédit.
Non, toi, ce que tu voulais parler, c'était du côté de l'histoire d'amour, peut-être, non? De
non,
Preacher.
Non, c'est bon, je l'ai déjà fait, celle-là. Les auditeurs connaissent ceux qui arrivent à lire ce qu'on n'a pas enregistré. Mais non, mais il y avait autre truc dont je voulais parler, fichier.
Mais ça va te revenir, alors embraye un peu sur le côté, sur l'histoire d'amour, peut-être que toi, t'as envie de voir. Parce que...
Mais alors, moi, je ne lui fais pas confiance pour ça. J'avais parlé de ça avant parce qu'on parlait du casting, qu'on n'a pas évoqué ici, mais moi, Cassidy me botte un peu, Dominic Cooper un peu moins, mais au fond, la série, si j'attends au tournant, c'est pas pour le casting, mais c'est pour l'écriture, et je pense pas que des scénaristes de MC soient capables d'écrire une histoire d'amour aussi réussie que celle qu'on trouve dans Preacher. Parce que moi, Preacher, avant d'être un manifeste contre la chrétienté ou Dieu sait quoi, c'est avant tout une magnifique histoire d'amour.
Est-ce que t'as envie de développer un peu ça? Parce que bon, si on parle d'histoire d'amour, je veux dire, si nous avait présenté le côté, voilà, on disait que Tully, par exemple, n'est pas du tout présente dans le trailer, ou alors vraiment très peu, et que si on avait axé sur le côté amour, on peut tout de suite aller commencer à râler en disant ah là là, triangle amoureux, et ça, ouais. C'est des choses qu'on reproche déjà à d'autres séries télé, alors pourquoi vouloir absolument.
Non, à une chaîne en particulier.
À une chaîne en
ouais,
particulier.
Mais justement, mieux vaut pas d'histoire d'amour qu'une histoire d'amour ratée, et puis dans la fiction en général, une chier d'histoire d'amour sont ratées. Il suffit de regarder la production absolument nauséabonde de comédies romantiques qu'on se tape chaque année ou la CW à n'importe quelle heure de la journée. Et du coup, dans celle de Preacher, il y avait un côté vraiment authentique. C'est pas comme s'il écrivait une histoire d'amour de fiction parce qu'en reprenant les canons de romance de la fiction. Et c'est comme s'il avait vraiment transposé ce qu'il a aussi fait dans Hellblazer, ce qu'il a aussi fait dans Hitman, les histoires d'amour qu'il avait vécues avec des nanas. Et ça sonne beaucoup plus vrai que, mais genre, vous lisez Superman Wonder Woman, puis après vous lisez Preacher, vous y croyez vachement plus, et c'est pas seulement parce que une. Ah oui, je me souviens de ce que je voulais dire. Yes, yes, yes. Ah, allez. Merci Superman, c'est toi qui m'as rappelé.
Ce podcast ne va rimer à rien. Vas-y, lance-toi.
Bref, bah vous avez compris ce que je voulais dire avec l'histoire d'amour. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais des pouvoirs, explorer l'utilisation de ces
Oui,
pouvoirs. Alors
mais.
moi, je pense que c'est une mauvaise idée de A à Z. Et j'espère que les producteurs pensent pas comme toi, parce que les pouvoirs de Preacher,
Merci, je m'en prends plein la gueule.
les pouvoirs de Preacher, du Preacher sont pas importants du tout.
Mais
C'est
si,
comme...
oh!
Non, alors c'est secondaire, il les utilise tellement rarement. C'est comme dans Hitman. Hitman, il a des... Enfin, désolé si je fais de la comparaison, mais il y a plein de points communs avec les deux, et les deux sont de Garth Ennis. Hitman, il peut voir à travers les murs, et puis il peut lire dans les pensées. Mais genre, il l'utilise absolument jamais, il passe son temps à boire des bières. Et Preacher, la même chose, il passe son temps à niquer Tulip, et puis à se balader en buvant des bières, et puis en roulant sur la route. Donc, ses pouvoirs, c'est vraiment secondaire. Si vous voulez lire l'histoire d'un type qui a des pouvoirs qui peut forcer n'importe qui à sa forcer... plier n'importe qui à sa volonté, il faut pas lire Preacher. Preacher, c'est pas sur ça, c'est pas de ça que ça parle. Si vous
Ah
voulez
mais
lire.
c'est une composante hyper importante.
C'est une composante importante et moi je le vois très bien justement parce que moi je suis de ceux qui ont des mauvaises idées de producteurs d'AMC, c'est qu'ils pourraient très bien jouer là-dessus et limite faire commencer à faire du procédural tu vois avec Preacher qui résout des enquêtes en obligeant
Non, non,
les coupables à se dénoncer, je sais pas ce genre de truc. Enfin c'est typiquement une direction dans laquelle ils pourraient partir aussi
non,
à ce niveau-là, tu vois.
non, s'il te plaît, non, quoi.
Non. Faut déjà
Non.
ça avec Lucifer, ces enculés.
Oui, non, mais non, on est d'accord que c'est une mauvaise idée, mais disons que c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire. Alors du coup, est-ce que vos attentes, elles restent quand même intactes par rapport à ce que vous aviez avant de voir ces images, ou est-ce que du coup, vous êtes plus suspicieux, Noodle?
Bah, je suis un gros fanboy de Preacher, donc moi, j'ai tellement envie d'y croire que je reste aveuglé un petit peu, tu vois. Mais maintenant, j'ai peut-être quelques réserves, mais bon, je serai quand même là, day one, devant ma télé à regarder, tu vois.
Ah mais
Mais ce qui...
si ça Valère enlève ton écho. D'ailleurs ce qui est beau c'est que le fanboyisme est encore un petit peu présent sur DC Planète. Zapli toi tu en penses quoi?
Oh, je vais aller voir. De toute façon, d'un autre côté, j'ai envie de dire, j'ai retrouvé quand même une partie de l'esthétique au moins de Preacher. Donc, ouais, déjà au niveau de réalisation, ça sera pas dégueulasse. Au niveau, comme je disais, le niveau de l'acteur principal, le mec, je trouve qu'il gère son truc. Donc, c'est pas lui qui va me dégoûter. Maintenant, j'attends le scénario parce que là, finalement, le trailer, il nous révèle pas grand-chose. Si ce n'est que j'ai l'impression que ça va être un peu un diesel le show. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre. Peut-être 2-3 épisodes avant que ça se lance réellement, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont poser la situation, poser les bases, poser les personnages pour les gens. Maintenant, il faut que ce soit trash. Parce que c'est quand même du Garth Ennis. J'ai envie de dire, s'ils nous font un truc trop aseptisé, ça passera pas du tout. C'est Preacher,
Mais
quoi.
si, si, Hitman s'est aseptisé, puis ça passait. Je veux dire, l'essence de Preacher, c'est pas dans le
Mais
trash.
si l'essence de Preacher, c'est dans le trash.
On peut pas s'entendre, moi je me
Oh
casse, Fetch.
non, mais. Honnêtement, l'essence de Preacher, c'est ça. Preacher, c'est du sang, des tripes
Mais non,
et...
c'est The Boys, ils sont des tripes.
Non!
The Boys, c'est Preacher sans ce qui fait la qualité de Preacher, et qui lit The Boys.
Ah mais The Boys, c'est de la merde. Mais Preacher, ça a l'avantage. The Boys, tu vois, c'est uniquement du trash pour du trash. Mais Preacher, il y a du trash, il y a un message à côté. Mais si tu enlèves tout le trash, t'enlèves une grosse composante. C'est comme si tu fais Star Wars sur le vaisseau spatial, mec.
Alors je suis d'accord avec toi, le trash est important, mais pas essentiel. Si
Si.
s'ils font l'écriture
Ça,
de l'histoire d'amour, l'humour aussi bon, s'ils font tout ce qui est à part du trash dans Preacher, ils le gardent et le mettent à la série, je la suivrai quand même. S'ils enlèvent tout ça et qu'ils gardent juste le trash, je vais jamais regarder ça.
ah, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, quitte à choisir, je préfère encore avoir l'esthétique et le trash, quitte à perdre une partie du message, quoi. Parce que le message, je l'ai dans les comics.
C'est ça, c'est-à-dire que nous, de toute façon, on a la chance de connaître de toute façon le support de base, et quoi qu'il se passe, je veux dire, même si c'est resté ultra ultra fidèle, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui nous manquera ou quelque chose qui nous décevra, mais l'important aussi, c'est de se dire que c'est sûrement une série qui risque de faire découvrir Preacher à des kidam lambda, et ça peut être qu'une
Bon,
bonne
après,
chose, hein.
ça peut être une bonne chose. Après, j'avais envie de te dire, en France, ça sera pas le cas. Les mecs, ils vont regarder la série Preacher, ils vont se croire hyper calés sur
Mais
l'univers.
non,
Et
The
en plus,
Walking
bon,
Dead, ça fait exploser les ventes. C'est le
Walking
comics qui
Dead,
vend le mieux
c'est
depuis
une
10
série de
ans.
merde qui
Et
adapte
puis
un comics de
Urban
merde,
Comics
donc.
va forcément profiter aussi, vu qu'ils ont une réédition là en cours. Forcément, ça va jouer là-dessus. Sachant que sur Amazon.
Ah, mais les mecs, ils achètent pas. Honnêtement, j'ai envie de te dire, en France, déjà, les gens lisent pas. Donc, deuxièmement, comment veux-tu que les mecs achètent en plus de la BD? regarder.
Mais parce que,
pas se vendre,
parce que
pas
sur
vraiment
AMC,
correctement, mais.
mais parce que lors des diffusions des épisodes, ils mettront retrouver les reviews de Preacher en VF sur DC Planète, ils vont lire nos reviews, ils vont faire bon, ok, bah on va aller acheter, tu verras, tu verras.
Non, mais de toute façon, si beaucoup de personnes achètent le comics avant que la série ne sorte, ça ne fera que desservir la série au final.
Bon, après, ouais, si la série marche, sinon on fait des reviews et tout, ça va leur apporter des visiteurs, on aura la coque, les putes, donc ouais.
Bon, pour conclure sur Preacher, moi je pense que Zeppeli et moi on va tomber d'accord parce que lui il préférerait, quitte à ce qu'ils enlèvent quelque chose, soit le côté intellectuel amour et puis qu'ils gardent le trash. Moi je préfère qu'ils gardent le côté intellectuel amour puis qu'ils enlèvent le trash, mais au final la série elle va nous satisfaire tous les deux parce qu'elle enlèvera et le côté
Ah,
trash
ça. Et le côté
et
amour.
le côté amour.
Et donc
Donc.
il y aura. Enfin, mais ne soyons pas non plus trop défaitistes et embrayons sans plus tarder sur la seconde news dont on veut parler. Donc, on reste du côté des écrans, mais on passe sur le grand format avec cette rumeur qui voudrait que Nicole Kidman soit présente dans le film Wonder Woman. Donc, c'est le site The Wrap qui rapporte l'information qui n'a pas été confirmée par Warner Bros. Nicole Kidman qui serait pressentie pour jouer le rôle d'Hippolyta, la mère de Wonder Woman. Alors, la présence d'une actrice avec un nom assez important pour porter ce film, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Noodle, vas-y, tu peux de nouveau embrayer.
Ça me parle pas spécialement, mais je rejette pas non plus.
Donc,
je
Noodle,
pense
ce soir,
ouais,
n'a pas envie de s'enjailler.
Je suis neutre, je suis le Suisse du Sud.
Vole pas, voilà, j'allais dire, vole pas, statue.
Ce que je pense, c'est que le meilleur de la carrière de Nicole Kidman est derrière elle. Donc voilà, après je la vois plutôt. Donc voilà, si elle joue Hippolyta, je la vois plutôt
C'était
dans un rôle à.
une allusion
C'était une
subtile à
allusion
son postérieur
subtile à son postérieur
ou...
Bah, aussi, oui. De ce côté-là aussi, le meilleur est derrière elle. D'ailleurs, après Wonder Woman, il faudrait qu'on se remette tous et les White Shots hein, pour se faire plaisir. Mais du coup, ouais, je l'imagine bien dans un rôle à la Russell Crowe dans Man of Steel, quoi. Un truc pas forcément. Un grand temps, enfin beaucoup de temps
de présence,
de présence à l'écran, mais un truc un peu iconique si elle peut s'en sortir. Et voilà, enfin, c'est pas ce qui va me rendre fou pour aller voir le film, mais c'est pas ce qui va me faire détester Wonder Woman avant l'heure.
D'accord. The Riddler, toi, qu'est-ce que tu en penses pour Nicole Kidman?
Moi, j'aime bien Nicole Kidman pour Eyes Wide Shut et puis Funny Games. Après, comme dit, pour moi, c'est pas le cast qui fait quelque chose. Comme Preacher, c'est à l'écriture que j'attends le film tournant. Après, ça peut me rendre plus optimiste parce que s'ils ont des bonnes ambitions au niveau casting, ça veut dire qu'ils ont peut-être aussi des bonnes ambitions au niveau écriture. Après, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils négligent l'écriture en misant trop sur des bonnes têtes de casting. On a vu le flop qu'a fait, je sais plus quel film avec Johnny Depp là. Comment il
Le
s'appelait?
Ranger,
The Lone
Ouais.
Ranger.
Non, pas. Ah bah pourquoi pas le The Lone Ranger, ça va aussi pour mon exemple, mais. Enfin, il y a pas mal de films, ben Green Lantern, on peut penser ça, Ryan Reynolds, ça vend, etc. Enfin, il y a pas mal de films qui ont des grands acteurs qui ont foiré.
C'est un grand acteur.
Bah, il fait 1,90 m, je crois, quand
Ouais.
même.
Non, mais il est vendeur, ils se disent, on fout un grand acteur et on s'en fout du scénariste, on prend des gars de la CW, ça va marcher du tonnerre, et puis on a vu ce que ça donne.
Et pour qu'on en revienne toujours à CW avec vous, c'est quand même assez incroyable. À ce niveau-là, Zappi, tu veux quelque chose à rajouter? Moi, je suis pas forcément d'accord sur, enfin, quand vous
Moi, je
dites que
dirais
la carrière de Nicole Kidman est derrière, mais je veux dire
quelque
encore.
chose de très original.
Ouais.
Si je voulais être un gros fils de pute, ce que je dirais, c'est quand même que la dernière fois qu'on a vu Nicole Kidman dans un film DC, c'est dans Batman Forever.
Mais
Voilà.
dis-moi, est-ce que ta mère ne tapinerait pas le
Oh
soir,
là là.
Parce que j'ai l'impression d'entendre un gros fils de pute me parler.
Non, mais voilà, donc toujours est-il que, en fait, ça colle un peu, je pense, à l'esthétique qu'ils veulent donner au film, parce qu'ils castent que des beaux gosses, ils veulent nous faire un truc un peu aseptisé, je pense, pour l'espèce le Themyscira que tu vas voir là-dedans, ça va être vraiment une île avec que des bombasses, tu vois, à mon avis. Donc bon, ils se sont dit, Nicole Kidman, pour qu'elle fasse un peu vieille, mais pas trop, et tout, tu vois, vu qu'elle est un peu refaite, et qu'elle
Un
soit
peu.
un peu refaite, un peu totalement en plastique. Ils se sont dit, bon, bah, le plastique, ça ressemble un peu au marbre, ça fait l'esthétique statue grecque, tu vois, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi ils ont. Mais voilà. Je pense qu'ils ont voulu capitaliser aussi sur le nom du grand actrice. Comme je l'avais déjà dit dans le précédent enregistrement, comme Marvel le fait en mettant régulièrement des grandes stars d'Hollywood dans leurs films, plus ou moins dans des rôles qui sont quasiment des caméos, parce que voilà, il y a eu Robert Redford dans Captain America, il y a eu Michael Douglas dans. Merde, Ant-Man, voilà. Tu vois, ils disent que c'est un minimum porteur de faire venir une légende d'Hollywood de temps en temps, quoi.
Et donc toi, tu étais quand même plutôt parce que Moi, ce que je rappelle sur sa filmographie récente, elle a pas fait que des films de merde récemment. Je
Oh, mais je
parlais
suis pas.
du film de Park Chan-wook, Stalker, et aussi Avant que la nuit tombe, un truc comme ça, Before Going to Sleep,
Je pense
qui
que
était
ça
pas
rassure les
dégueulasse.
producteurs. Tu vois, je pense que ça les rassure de mettre un grand nom quelque part sur l'affiche. Puis bon, finalement, Nicole Kidman, c'est pas non plus
Oui,
une erreur de casting, quoi.
sachant que d'ici là, Gal Gadot aura aussi quand même sa renommée, puisque bon, elle va quand même être Wonder Woman dans Batman v Superman, ça va lui offrir un joli tremplin. Puis la saga des Fast and Furious dans laquelle elle est, c'est aussi quelque chose de très populaire. Donc, quelque part, Gal Gadot, c'est déjà aussi un nom assez porteur. Mais il me semblait que quelqu'un avait fait l'analogie avec, je sais pas si vous l'avez refait ou pas, là, avec Robert Redford dans
Ouais,
Captain
j'ai fait,
America.
ouais.
Tu viens de la faire, ouais. Ça, donc désolé. Mais
Michael Douglas dans Ant-Man, j'ai dit aussi, j'ai ajouté là, tu vois.
oui, c'est vrai, ouais, par exemple. Donc, bah, c'est. De toute façon, ça n'a pas été confirmé à 100%, donc ça se trouve, c'est que de l'intox, mais moi, j'ai envie de dire qu'on peut quand même le voir plutôt d'un bon œil, l'arrivée d'une actrice, en tout cas d'un grand nom, pour ce film qui sortira donc, je le rappelle, en 2017.
Voilà, si elle fait quelque chose de plus proche de ce qu'a fait Russell Crowe dans Man of Steel que ce qu'a fait Kevin Costner, tu vois, tant mieux. Voilà, je vais pas être un bâtard,
Faut savoir, c'est soit t'es un bâtard, soit t'es un
mais...
fils de pute, mais maman.
Zephyr peut être les deux, je crois, lui, tu vois, c'est.
C'est ça.
Oui, c'est vrai. Alors, on va passer ensuite à la section comics. On va donc quitter les écrans pour le papier, parce que, comme le dit Zephyr, le papier, c'est pratique pour se torcher. Et on va parler d'Aquaman. Pourquoi on va parler d'Aquaman? Parce que il y a quelques remous sur le titre DCU. En ce moment, il faut savoir que l'auteur Cullen Bunn, qui s'occupe du titre depuis juin 2015, va quitter l'écriture en janvier 2016. Et pourquoi il va le faire? Pas parce qu'il en a marre, mais à cause de la pression de certains fans sur les réseaux sociaux, qui, avant même la parution de son premier numéro, en fait, ont hurlé que de toute façon, bah, son histoire, ça allait être de la merde. Ils lui ont mis la pression, que sa direction ne plaisait pas, que ça cassait tout ce qui avait été fait auparavant. Et du coup, ça l'a dégoûté du personnage. Alors, son éditeur a quand même réussi à le convaincre de rester au moins pour faire son histoire, mais à partir de janvier, il va s'en aller de lui-même, a priori. Est-ce que ça relance un peu le débat sur l'extrémisme des fans et aussi est-ce qu'il faut vraiment bâcher les auteurs comme ça sur les réseaux sociaux pour arriver à ce genre de choses? Alors, Zepli, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus?
Bah, alors déjà, la première chose, c'est qu'en fait, si les réactions sont surtout virulentes par rapport au contenu de l'histoire, réellement. Alors, Cullen Bunn, en fait, c'est clair que son run n'est pas terrible. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je serais pas mécontent de parler de son départ comme ça. Maintenant, la façon dont il doit le faire, et surtout la raison pour laquelle il doit partir, a priori, enfin, il estime lui devoir partir, n'est pas spécialement valable, parce qu'en fait, il plie à une minorité qui se fait entendre, et qui, encore une fois, je vais spoiler le truc, déjà,
Ouais, alors là,
forcément.
c'est le moment de faire un
Un petit
jingle
jingle.
spoiler alert. Je crois que The Riddler a envie.
Spoiler, spoiler, alerte, 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 spoiler, spoiler, alerte, alerte, alerte.
Tu sais quoi ça, tu sais, maintenant que j'y pense, tu sais à quoi ça me fait penser, ce jingle?
Crème de bâche?
Non, même pas, mais j'aurais pu y penser. Non, en fait, au Topicker dans Pokémon. Quand ils sont inquiets, parce que ça fait trio, 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 Topicker, Topicker. Tu reprends un peu le même. Voilà.
Excellente référence, mais c'était inconscient. Après, c'est peut-être des heures que je me suis tapé à regarder avec Madaza à terre des épisodes de Pokémon pour me remémorer à quel point c'était pourri. Mais
C'était pas pourri,
Pokémon. C'est pas
C'est
pourri,
bien Pokémon.
Regarde-le maintenant. À part la Team Rocket qui brise le quatrième mur, c'est vraiment de la merde.
D'accord. Pardon, donc maintenant que le spoiler alert est placé, Zappy, tu peux continuer par rapport à l'histoire de cet arc d'Aquaman.
Voilà, alors en fait, dedans, Aquaman se retrouve poursuivi par les Atlantes, puisqu'en fait, il a été visiblement trahi par Mera, qui envoie à sa suite son armée le poursuivre. Et en fait, il s'avère que c'est pas Mera qui
Et non.
était. Oui, parce qu'en fait, c'est Sirène, la sœur de Mera.
Et oui.
Et puis, bon, bah forcément, il s'est passé ce qui se devait se passer, et il y a eu une relation sexuelle entre les deux personnages. Et de ce fait, il y a eu un viol, plus ou moins,
Attends, mais tu veux dire
du
que
personnage d'Aquaman. Ce qui...
Tu veux dire qu'Aquaman a mis son zizi dans la sœur de Mera?
C'est ça! Et de fait, et tu vois, et apparemment, du coup, et ben, les gens, en fait, ils ont le droit d'hurler au viol et au traitement à la légère de genre de choses-là. Donc, en fait, encore une fois, il y a une espèce de défenseur de la morale de Twitter, là, qui sont en train de prendre le dessus, quoi, qui, après avoir s'être scandalisé à cause d'un doigt dans le cul pour Grayson, part là-dessus. Non, mais honnêtement, ça commence à me gaver. Parce que j'ai l'impression, il y a l'inquisition religieuse qui est en train de monter au créneau et ça marche quoi, ça me fait flipper quoi.
Alors Noodle, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur cette histoire?
Déjà je veux dire que la seule raison pour laquelle Zep soutient Cullen Bunn, c'est parce qu'ils sont chauves tous les deux. sinon mais enfin je veux dire c'est tellement facile aujourd'hui de taguer un mec sur Twitter et lui dire tu fais de la merde, t'es un connard, va te faire foutre quoi. Mais il y a aussi le fait que tous les auteurs subissent ça, et à un moment, il faut aussi se dire que c'est bon. À la limite, tu sais pas, tu choisis, est-ce que ta carrière est plus ou moins importante que ton compte Twitter? Enfin, il y a plusieurs artistes maintenant qui ont quitté les réseaux sociaux pour cette raison et qui s'en portent pas plus mal. Mais du coup, après, je trouve que c'est quand même limite, surtout que même si c'est pas terrible, Aquaman, Cullen Bunn n'a pas fait que de la merde, même chez DC d'ailleurs, mais.
Non, parce qu'il se débrouille plutôt pas mal sur Sinestro. Hein.
Ouais, voilà. Et puis, enfin, s'il y a quelqu'un sur lequel il faut s'acharner, c'est sûrement pas lui. Après, son problème, c'est aussi qu'il a, je sais pas, 6 ou 7 comics par mois à publier. Donc, il y a aussi le problème qu'il y a plusieurs auteurs comme ça qui sont surchargés. Et forcément, la qualité sur certaines séries, et ça se ressent. Mais bon, après, voilà. Franchement, c'est pas le premier à subir les foudres de Twitter. Il y en a plus d'un qui ont failli aussi se barrer. Mais
pourtant les autres se barrent pas, donc est-ce qu'on peut ranger Cullen Bunn sous la bannière hashtag je suis fragile, tu vois?
Bah, peut-être qu'il serait bien pour la team fragile, tu vois, mais on pourrait lui demander. Mais après, le problème, c'est aussi que, je sais pas, le mec, il était peut-être pas si fan de son propre travail sur le titre et que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Puisqu'il a même avoué que de toute façon, qu'il s'était lui-même dégoûté du personnage au final. Hein. Mais c'est quand même très fort, tu vois, quand un auteur te dit que les réactions sont si mauvaises que ça te dégoûte d'écrire un personnage sur lequel que peut-être à la base t'aimes bien, c'est assez difficile à entendre. Je veux dire, bon, nous on est là toujours en tant que lecteur à dire ouais, c'est de la merde, c'est nul. Somme, c'est vrai que quelque part derrière la plume, il y a l'être humain aussi, tu vois. Et je sais pas, ça se trouve le mec il est sous Xanax maintenant à cause de quelques tweetos, tu vois.
Et quand t'es un artiste, il faut aussi avoir les épaules solides à un moment parce que tu t'en prendras plein la gueule toute ta carrière quoi qu'il arrive. Du coup, je sais pas.
Ouais. The Riddler. Oui.
Ouais, vas-y. Non, vas-y.
The Riddler, si tu veux poursuivre là-dessus.
Alors, de mon côté, on passera sur la puérilité des fans, mais moi, ce qui m'inquiète, je me demande si des gars comme Cullen Bunn, vu sa réaction piquée d'orgueil, à quel point il pense que ce qu'il écrit, c'est bien. Parce que s'il sait qu'il fait de la merde, ben il s'en fout que les fans réagissent en disant ça va être de la merde. Mais là, qu'ils réagissent comme ça, si c'était Grant Morrison, je peux comprendre qu'ils soient déçus. Ils disent mais bon, ils sont pas prêts pour ce que je vais leur apporter. Mais là, je veux dire, le gars, il fait de la merde. Il a fait de la merde sur Lobo, il a fait de la merde sur Sinestro. Ben il va faire de la merde sur Aquaman et puis tout le monde le sait. Puis voilà quoi. S'il est confortable avec ça, ben qu'il y aille. Et puis si au fond il pense que ce qu'il fait c'est génial, qu'il se tire. Mais au fond, enfin bref. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est à quel point les auteurs qui font de la merde comme Cullen Bunn sont persuadés de faire des bons trucs.
Oui, enfin, sachant que Cullen Bunn, c'est quand même parmi les auteurs qui ont pu faire de la merde récemment chez DC, c'est quand même loin d'être le pire. Hein. Je veux dire, on se rappelle de l'époque Scott Lobdell ou de Anderson T sur Catwoman. C'était, je pense, quand même bien pire que ce qu'il a pu faire. Et malgré, je crois, les réactions des fans, eux ont su garder la tête haute et sont, ça se trouve, très fiers d'avoir leur TPB qu'ils ont écrit chez eux. Ils se disent, ah oui, ça c'est du bon comic book, j'aime bien ce que j'ai fait. Ouais, tu vois.
C'est pas débile en plus ce qui fait que sur Aquaman là c'est vraiment pas top. Mais après, tu vois, genre sur Sinestro, il s'en tire. Et après, en indépendant, c'est lui qui a fait The Six Gun. Bah, c'est pas trop moche quoi.
Bah, même The Lost Army, la mini-série Green Lantern, c'est pas de la merde quoi. C'est correct, ça se lit. Hein.
Oui, puis bon là, il est aidé par un artiste assez talentueux qui résout ça. Après, je sais pas s'il fait des trucs aussi beaux que sur Swamp Thing, mais bon, après le format mini-série aussi, ça aide aussi, tu vois, à pas prendre trop non plus, enfin, à pouvoir prendre les risques tout en sachant de toute façon, en fait, vu que c'est un CDD, tu vois.
Il voit très bien que Cullen Bunn, c'est le genre de mec qui prend souvent des fois. Le mec, il se retrouve des fois avec 10 séries à sa charge, avec que des personnages un peu secondaires, tu vois. Et du coup, Aquaman, ils l'ont retraité comme un second couteau, alors que pendant un moment, il était traité comme un personnage qui était quasiment A-lister, B-lister, peut-être. Là, il est retraité comme, allez, si, sans problème. Tu vois, donc c'est ça le problème. Je pense le problème, c'est pas vraiment le. Son arc à lui-même, c'est ce que l'éditeur en fait, quoi. Genre, si Bunn, on lui avait dit, bon, ben voilà, écoute, tu prends un seul titre et c'est Aquaman, il aurait fait, à mon avis, autre chose que ce qu'il a fait là.
C'est sûr, et c'est vrai que l'occasion serait peut-être venue pour Aquaman de revenir dans le top des personnages DC, et c'est quelque chose qui sera peut-être faisable parce que d'un autre côté, il y a Geoff Johns qui a annoncé sur Twitter qu'il a recommencé à travailler sur le personnage avec donc son artiste favori Ivan Reis et Joe Prado, puisqu'ils vont en fait faire la conclusion, ou en tout cas la suite de leur run avec l'arc Rise of the Seven Seas. Alors ça, Zaplu, on va continuer là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends avec impatience du coup de revoir Jones sur Aquaman, puisqu'on peut dire à peu de choses près que c'est quand même Jones qui a redonné ses lettres de noblesse au personnage.
Ouais, c'est vrai. Bah alors pour moi, oui, en fait, j'attends pas mal ça parce que quand tu regardes le run des New 52, le début là, de Jones et même sur Rome Atlantis, ça a vraiment permis en fait de redonner effectivement un peu de noblesse à Aquaman, et surtout en fait, dans la pop culture, d'en faire un personnage plus crédible. Ce que je veux dire, jusqu'à ce moment-là, même s'il y a eu des runs par ailleurs qui étaient plutôt pas mal foutus sur le personnage, il a réussi à faire de son Aquaman, qui est un Aquaman plutôt classique, c'est-à-dire avec le costume un peu pyjama orange et vert, là, tu vois, un personnage badass et crédible. Autre chose que la tarlouse qu'on essaie de nous vendre dans des séries de merde, genre Big Bang
Big Bang
Theory.
Theory, ouais.
Voilà. Donc, tant mieux. Si, donc, pour moi, c'est un auteur qui, justement, a su prendre en main le personnage et faire quelque chose de bien avec. C'est autant à la grande époque, c'est ce qu'il faisait sur Green Lantern, c'est ce qu'il fait maintenant, enfin, maintenant, c'est ce qu'il est capable de faire sur Aquaman aussi, je pense. Donc, moi, je suis plutôt confiant, en fait. J'attends vraiment, je me dis que ça peut être une bonne histoire, et toujours est-il que ça sera au moins mieux que ce qui nous a été proposé ces derniers temps, quoi.
Et toi, Noodle, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, bah, je l'attends aussi parce que j'ai quand même pas mal aimé son premier run sur Aquaman, quoi. Après, on sait pas encore vraiment quelle forme ça va prendre, s'il va vraiment faire suite à Cullen Bunn et reprendre la série, ou si ça sera une mini-série, si ça sera un event à part entière. S'il reprend la série, personnellement, je le vois revenir comme il est revenu sur Superman pour faire un arc, un gros arc, et donner un coup de boost aux ventes et redonner un petit coup de dépoussière en personnage, quoi. Mais je l'imagine pas revenir faire Rise of the Seven Seas et rester encore très longtemps sur le titre. Donc voilà, j'attends ça comme son grand final, quoi. Et après, moi, je sais que vous êtes pas spécialement d'accord avec moi, mais je me demande si 2 ans et demi après, c'est peut-être pas un peu tard pour faire une suite directe à son run, quoi.
Après, il avait d'autres projets en cours aussi. Il fallait qu'il traite. Là, il avait son Dark Side War à préparer, et qu'il est en train de faire en ce moment. Mais justement, avec l'arrivée d'Aquaman aussi au cinéma, c'est peut-être un bon moment pour les comics, en tout cas, de remettre un auteur avec un gros nom dessus, pour profiter d'une double exposition et pour réintéresser les gens au
Mais
personnage.
j'ai même envie de dire, pour pas devoir annuler le titre faute de vente, hein, pour le coup.
Oh, mais je crois qu'en termes de vente, le titre se continue à se vendre pas trop. Enfin,
Mais il a
c'est...
baissé d'un coup, quoi, par rapport à ce que c'était.
Vraiment, j'ai pas les chiffres.
Bah, il baisse un peu, en fait. Il baisse un peu, et j'ai l'impression que de numéro en numéro, ça va baisser, parce que là, les gens ont acheté le début de run par curiosité, et là, il se trouve qu'il est peu apprécié. Maintenant, on sait qu'il part, donc les gens ils se disent, bon, c'est bon, je vais pas l'attaquer, quoi, à mon
Mais du
avis.
coup, si Geoff Johns revient, que ce soit même sur la série mère ou alors pour une mini-série à côté, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de sauver le personnage Quel auteur vous pourriez mettre dessus pour
Oh, Jeff
sauver le
Parker,
titre?
tu peux remettre Jeff Parker, hein. Ce qu'il a fait, c'était bien.
Jeff Parker, pour toi, Noodle?
Ouais, je sais pas. C'est vrai que Jeff Parker, c'était pas mal. Après, je sais. Enfin, c'est bizarre la façon dont il est parti, parce que justement, il faisait des trucs plutôt bons dans la continuité de Geoff Johns, et d'un coup, on nous a annoncé Cullen Bunn avec une vraie cassure, donc c'était spécial. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il aurait gagné à revenir. Après, je vois pas. Je pense que franchement déjà si Jones revient, qu'il fait un bon truc et que DC met le paquet
Niveau com.
Niveau com, ça peut déjà faire du bien perso, mais pour la suite, c'est s'ils mettent un mec assez compétent pour surfer un peu sur la vague, comme l'a fait Parker justement, parce que à ce moment-là, les ventes elles ont baissé, mais pas si significativement que ça au départ, et je sais pas, un auteur comme ça, voilà,
toute façon, tu peux mettre n'importe qui à
un mec
partir.
qui sait, ouais,
Ah ça, à
un
partir
mec...
du moment aussi, tu lui donnes pas 30 titres, quoi.
Ouais, c'est ça, un mec qui sait écrire et qui est pas surchargé de travail, et pas un gros yes man, quoi, du coup.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ce que vous dites, ce que je sous, enfin, ce que moi je trouvais sous-entendu dans les propos de Zeppi avant, c'était de dire que Kalman c'était un peu un yes man à ce niveau-là, quoi, qu'il écrivait pour écrire, mais que peut-être que du coup, ça, il a pas forcément envie de s'impliquer à mort dans ce qu'il fait. The Riddler, toi, tu attends le retour de Geoff Johns sur Aquaman ou pas?
Ni chaud ni froid, Geoff Johns, je trouve que depuis récemment, il fait tantôt des excellents trucs comme Throne of Atlantis avec le même personnage d'Aquaman, tantôt il fait des trucs un peu moins honorables comme ses travaux récents sur Green Lantern ou sur la Justice, les premiers runs de la Justice League. Après moi, comme j'avais répondu au précédent enregistrement, j'aimerais quand même rappeler que c'est pas depuis lui que Aquaman est cool. Aquaman était cool depuis longtemps. On peut peut-être juste le remercier d'avoir, avec le pinceau de Ivan Reis, l'avoir remis un peu plus sous le feu des projecteurs. Mais sinon, Aquaman, il a toujours été sympa. Puis on le voyait déjà dans l'arc Death of a Prince de Paul Levitz, et puis un autre que j'ai oublié dans les années 80. Et puis dans les années 70, lors de ses, par exemple, les lecteurs d'Urban s'en souviennent peut-être de lui dans ses apparitions dans Batman Légende de Brave and the Bold, où déjà Batman soulignait son côté un peu à part des personnages de DC Comics dans quelques répliques.
Son côté étranger, tu disais, pour
Exactement, ouais.
reprendre tes mots.
Atlante, en fait.
Son côté atteint. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on n'en avait pas parlé avant, mais on peut peut-être remplacer un tout petit mot. Je crois que Noodle est content quand même. C'est de voir qu'en fait, discrètement, il y a Scott Lobdell qui est en train de revenir sur Teen Titans.
Ouais, vraiment, on voit que DC a un peu honte parce qu'ils l'ont pas annoncé, ils l'ont glissé dans les sollicitations comme ça. Mais ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est qu'en fait, on a l'impression que DC, enfin, pour les Teen Titans, ils ont renoncé, quoi.
Mais c'est ça parce
Parce
que...
que tout le monde est d'accord pour dire quand même que Scott Lobdell, qui n'a pas déjà fait que des trucs bien, c'est sûrement le pire truc qu'il ait fait chez DC, les Teen Titans. Après lui, ils ont mis Will Pfeiffer, qui a fait un petit peu mieux, mais c'est quand même pas terrible. Et là, ils se sont dit, grande idée, on va mettre les deux en même temps, on va voir ce qui se passe. Et c'est de la merde, quoi. Non seulement c'est de la merde, mais c'est incohérent par rapport à ce qui a été écrit sur la série avant. Enfin, je sais pas. Problème éditorial, problème éditorial.
Exactement. Et en plus, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que Lobdell veut refourguer son personnage de Doom dedans aussi. Du coup, puisque la série va être annulée, mais du coup, il va quand même essayer de l'insérer un peu à droite à gauche dans les séries d'ici. Scott Lobdell, dont on ne comprend pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui lui doit avoir des épaules très très solides, parce qu'à mon avis, lui doit aussi bien s'en prendre sur Twitter et avec peut-être un peu plus de raison. Et pourtant, lui, il s'en fout quoi, il continue à faire. Enfin, il revient sur Teen
Non,
Titans, quoi. Je veux dire,
mais
c'est...
je pense que Scott O'Dell a des données de pression sur la direction de DC pour qu'il ait une série à chaque fois, parce que c'est pas possible. Je sais pas, il doit avoir une sextape de Didio ou un truc comme ça, mais...
Non, mais c'est ça, il y a des trucs comme ça avec des gens qui ont des pressions par rapport à des trucs de harcèlement sexuel dans les locaux de DC. Mais remarque, t'as peut-être raison, hein, peut-être qu'il y a des choses sales qui se passent en coulisses et qui expliquent que Scott Lobdell puisse avoir des séries. Bon, cela dit, moi je défends quand même l'auteur, parce que Doom c'est pas dégueulasse, et surtout que là son Red Hood Arsenal, c'est franchement fun.
Wow.
Non, arrête, c'est franchement bon.
Non.
Si, ça putain, je peux vite. Non, franchement, si. Red Hood Arsenal, c'est bien fandard. Moi j'ai quand même envie de défendre l'auteur là-dessus, mais c'est vrai que sur Teen Titans, c'est pas forcément une bonne chose de le revoir débarquer. Et donc, dans la douleur, on arrive quand même à reparler de CNews. On va maintenant passer à la partie communautaire, donc puisqu'il y a Laurando, notre fidèle auditeur, qui nous a reposé une petite salve de questions en préparation de ce podcast. Alors, la première question, c'est... Excuse-moi, je retrouve la question. Voilà. Quelle signification donnez-vous à la longueur des oreilles de Batman?
The Riddler, rappelle-toi ta blague, s'il te plaît.
Allez.
Alors, vous voyez, cher monsieur Arnaud, je pense qu'il faut voir les oreilles, c'est évident d'ailleurs, je pense que beaucoup de philosophes sont d'accord avec moi, c'est un symbole phallique évident. Et puis sa dualité suggère une relation particulièrement ambiguë avec son sidekick, pour reprendre un affreux anglicisme, Robin, donc. Et je pense que justement, un artiste comme Kelly Jones a particulièrement bien saisi la subtilité derrière cet attribut et avec une hauteur démesurée, en fait, suggère la puissance dominatrice virile, le poids du pénis, si vous pouvez me pardonner l'expression, que suggérer justement à travers la taille de ses oreilles particulièrement exagérées. Merci beaucoup, Arnaud, pour la parole.
Et pour le coup, il l'a mieux fait la deuxième fois, quoi.
C'était
Je suis sûr
excellent.
qu'il l'avait préparé.
Très bien. Bon, alors on va passer. Non, on va garder. C'était très beau. Merci. On va passer directement à la deuxième question. Supergirl vient de cartonner sur les écrans américains, donc je m'en remets pas. Oui, donc faut savoir que la série a fait un très très bon score pour son épisode pilote avec 12 millions de téléspectateurs. À croire que les gens, ils n'avaient pas capté que le truc avait leaké 5 mois auparavant. Et donc, alors, la question c'est, alors, c'est vraiment la cousine à Superman?
Par contre, c'est divisé par deux, par contre, hein, l'audience pour
Ouais, pour le deuxième, c'est passé à 8 millions, mais ça reste quand même bien bien assez haut pour le network et surtout pour une série de super-héroïnes. Donc, est-ce que c'est vraiment la cousine à Superman? Réponse oui, mais plus intéressant, quelles sont les versions les plus connues du mythe de Supergirl et quelles histoires aimez-vous de Kara? Donc, Zeppli.
Ouais, alors. Déjà, alors, premièrement, si t'as pas peur, franchement, faut attaquer la version pré-crisis, qui commence dans les années, fin des années 50, début des années 60. Ou alors là, ça va être totalement what the fuck, où ils vont lui coller un super chat, un super cheval, enfin, comète, là, et ainsi de suite. Sinon, par contre, vraiment, ce qui est le plus intéressant à lire, donc déjà, c'est à tout prix d'éviter les versions des années 90 avec Matrix. Parce que voilà, en fait, où elle a été remplacée, Supergirl, parce qu'elle est morte dans la Crisis on Infinite Earths de 86, 86, 7,
85,
5.
85,
Bon, ok.
pour moi,
Donc voilà. Et de ce fait, il savait pas trop comment la ramener. Du coup, il est remplacé par une espèce d'alien qui a pris son identité. C'était stupide.
c'est. C'était
Voilà.
stupide. J'aime bien le... Et c'était stupide.
Ouais, voilà.
Le cours
Donc
d'histoire. Ça dit,
du coup.
tu t'es pas prof de français, tu devrais être cours prof d'histoire aussi, genre. Et là, donc, ils se sont déclarés la guerre et c'était très con. Parce
Du
que.
coup,
Vas-y.
la version, la meilleure version, c'est en fait sous la plume de Michael Turner, voilà, et écrit par Jeff Loeb.
Jeff,
Donc dans Superman Batman, donc dans un des premiers arcs d'ailleurs, parce que je crois que c'est dans le numéro 8, je crois, donc de début des années 2000, 2004, 2004, 2005 par là, où en fait ça, ils vont re-raconter son arrivée sur Terre dans un arc qui s'appelle The Supergirl from Krypton là, qui est probablement l'une des meilleures choses, qui reparaît de façon assez régulière en VO, mais c'est souvent par contre dans des absolutes. À la gloire du
de Michael
regretté
Turner,
Michael
ouais.
Turner, voilà, mais qui vendent ça généralement plus de 100 $. J'imagine, vous m'aviez indiqué l'information tout à l'heure que Urban comptait publier Superman Batman.
Oui.
Donc, du coup, ça sera publié chez eux début d'année prochaine.
Oui, c'est ça.
Ouais, donc voilà, ça c'est à conseiller. C'est vraiment à mettre quasiment entre toutes les mains, quoi.
Et que si jamais vous n'aimez pas lire, c'est un arc, c'est une histoire qui a été adaptée en film animé dans Superman Batman Apocalypse, qui est
Voilà.
un bon film d'animation.
Qui se
Non, il est
trouve.
pourri pour voir
Non.
Batman défoncer des Doomsday à coups de poing. Vas-y, le méchant qui est le plus terrible du DC Universe qui a tué Superman. Oh, Batman, il le nique. Bon, en même temps, c'est
Bah ouais,
Batman.
c'est
Ah,
Batman.
Bah c'est
Voilà.
Batman, mec.
Pardon, pardon,
T'as un
pardon.
souci avec Batman
Argument
ou.
invalide, argument invalide,
Ouais,
tu me tais.
ok. Parce que c'est Batman.
Comment éclater
Voilà.
ses oreilles dans la nuit?
C'est ça.
D'ailleurs, voilà. Non, mais achetez-le ce DVD. En plus, il vaut pas grand-chose et il est souvent vendu dans les packs. Voilà.
Allez, donc on va passer à la troisième question. À Supergirl, Catwoman, Wonder Woman, et après, quelle autre super-héroïne pouvez-vous me conseiller pour que je puisse enfin faire lire du super-héroïque à ma nièce de 9 ans? Alors déjà, on dit bonjour à la nièce de 9 ans de Laurando, puis pour répondre à ta
Et
question.
je crois que Zeppeli serait ravi de te rencontrer, chère
Non,
nièce
non.
de 9 ans.
Oh, putain.
What
Non,
the
putain.
fuck? Arrêtez de me faire passer pour je ne sais quoi là.
Oh, tu te le fais passer très bien tout seul, tu sais,
Pff,
Zeppeli. Et donc, cette nièce de 9 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais à lire, Zeppeli?
ouais, Bad Girl, hein, le dernier run actuel. Celui de.
Le Bad Girl de Burnside?
Ouais, de Burnside.
Et tu penses qu'il y a d'autres choses chez DC Comics qui pourraient convenir à une jeune fille de cet âge?
Bon, bah, moi je pensais à la série actuelle de Starfire, mais elle n'est pas encore publiée en VF. J'imagine qu'ils vont le faire.
Ça, c'est pas sûr.
Ah?
Bah, franchement, c'est pas sûr, hein. Enfin, ouais.
Ouais, Non, moi je vois bien ça quand même en librairie. Ils ont fait, bah regarde, ils ont fait Gotham Academy par exemple, qui est pas une grosse série.
Ouais, mais
Ouais,
Gotham Academy, il y a l'intitulé Gotham, mais c'est du Batverse quand même, donc ça, c'est un potentiel de vente. Starfire, en France, je suis pas sûr qu'elle soit ultra populaire, je veux dire, à part deux, trois crevards de mon genre qui sont absolument fans du personnage pour son apparence physique, voilà, le personnage en lui-même.
est-ce que c'est pas une bonne raison pour que cette petite nièce de 9 ans apprenne l'anglais
Mais j'ai envie de dire, si après cette petite nièce de 9 ans se fait des cosplays de Starfire une fois
Ah
atteint la
là
majorité, je vais te dire, là, une très bonne
là! Non,
idée,
mais
effectivement.
j'ai trouvé que c'était hyper feel good et tout, tu vois, donc c'est des choses que tu peux lire en étant jeune, quoi.
Et du coup, Gotham Academy, c'est aussi quelque chose qu'on peut conseiller du coup à une jeune
Complètement.
fille, même si c'est pas du super-héroïque à proprement parler, ça reste quand même assez héroïque, c'est une sorte de club des 5, mais dans Gotham City.
Ouais, et puis c'est vraiment vide. Bah, je pense que c'est pas mal ciblé aussi pour un public féminin en plus, donc bon.
Oui, vu que y a quand même sur les 5
Deux
heures,
personnages.
trois, il y a trois
Trois?
personnages féminins principaux quand même. Hein. T'as Olive, sa
Ouais.
copine Maps, et t'as la pimbèche là, je sais plus
Ah
comment elle
oui,
s'appelle du coup,
ouais.
tu vois.
Oh, elle est énervante.
Ouais, elle est énorme, mais du coup, Pauline. Et
Ouais.
du coup, j'ai envie de dire que sinon, t'as leur pote, t'as Kyle, tu sais, Kyle, son ex et tout, en fait, qui est super en retrait quand même, comme personnage. Et du coup, en fait, en termes de personnage masculin, t'en as un autre, là, le mec un peu geek qui les aide. Mais sinon, c'est vraiment quand même trois jeunes filles.
Ouais, puis il y a un feeling un peu Goonies et tout qui passe
Ouais, c'est
pas mal.
ça. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait conseiller. Les autres, vous avez d'autres idées en tête ou on passe à la question
Alors,
suivante?
j'ai déjà mentionné, mon cher Arnaud, mais pour revenir à la sexualité, qui, je pense, est
Ah.
une des clés de compréhension du monde les plus pertinentes, il y aurait Strangers in Paradise qui convient particulièrement à une petite fillette de 9 ans.
Ah là là.
Il est horrible, il est vraiment horrible. Et donc, quatrième et dernière question qui viendra conclure ce podcast. Firestorm est-il un cas à part chez DC avec ces deux personnes en une seule? Y a-t-il d'autres exemples? Et faut-il en profiter pour révéler que Zeppeli et Darkseid sont la même personne?
Alors, j'ai envie de dire, à l'époque, durant Grand Prison sur Doom Patrol, il y avait un personnage extraordinaire qui s'appelait Crazy Jane. Je suis
Oui.
désolé, vas-y, Richard.
Je suis désolé, si mon cerveau a bugué. Est-ce que tu arrives à redire le même truc que je puisse réagir sur ta blague si j'ai moyen?
Je préfère pas, non, mais.
Bon.
Parle
Alors.
de Crazy Jane, vas-y.
Ah, Crazy Jane! Ah, ouais, Crazy Jane, alors hyper cool. Alors, en parlant de multiples personnalités, pour moi, le personnage de DC qui est le plus intéressant de ce côté-là, c'est un personnage de Doom Patrol, créé par Grant Morrison. C'est un personnage qui s'appelle Crazy Jane, qui est une nana, qui est en fait, genre, plus de 60 personnalités, puis à chacune de ces personnalités, est associée un pouvoir. Et c'est un des personnages récurrents de son run sur la Doom Patrol, excellent run d'ailleurs, un peu dans l'ombre des Invisibles ou de Animal Man, mais très bien quand même. Et puis, ouais, c'est un personnage hyper charismatique, très tragique, et puis très bien. Mais sinon, cher Arnaud, du terme de la dissociabilité de personnalité, je pense qu'un des personnages qu'on oublie peut-être trop souvent, mais après il est un peu obscur, donc cet oubli est justifiable. Ce serait peut-être Harvey Dent, pile ou face, comme on le dit en français, pour éviter les affreux anglicismes précédemment évoqués. Et ce personnage, à mon avis, est un des personnages du DC Universe, qui est le plus représentatif de cette dissociabilité de la personnalité. Et c'est particulièrement bien vu dans Batman Animated Series.
Le mec, en fait, on dirait il passe sur Arte, s'il te plaît,
Ouais, c'est
quoi.
ça, non, mais c'est. Écoutez ce truc à minuit, s'il vous plaît, quoi.
C'est ça.
D'accord, mais Harvey Dent, pourtant, c'est pas deux personnages en un, tu vois. C'est un personnage qui a une double personnalité, mais je veux dire, nous, là, ce que demande vraiment, c'est vraiment deux
Ouais,
personnages
mais il
qui
n'y a que lui,
fusionnent.
en
Alors,
fait.
du coup,
Il n'y a
ouais,
que
il
Firestorm, mais il y a plein de Firestorm différents dans notre
y a.
copain.
Pour revenir sur Harvey Dent, je tiens à rappeler que dans Batman Animated Series, il y avait vraiment un méchant Harvey Dent et un gentil Harvey Dent. Et puis, parfois, lorsqu'on lui parlait, il disait non, ici, c'est le méchant. Le
On
méchant,
arrête.
sous-entendu, c'est dans la du
Arrête,
dualisme.
arrête.
Dans le dualisme, pourrez-vous, s'il vous plaît, faire silence? Dans le dualisme. Dans le dualisme, je le répète, le dualisme séculaire du bien qui s'oppose au mal, un thème un peu revu et revu, mais qui était ici particulièrement bien exécuté. Merci Arnaud pour la parole.
Bon, je crois que
Le mec se crée des personnages.
C'est ça. Non, mais je crois qu'en termes de personnage à double personnalité, The Riddler, il est en train de nous faire quelque chose.
Professeur Riddler, quoi.
C'est ça. On sera ravis de l'inviter pour les prochains podcasts.
Docteur, s'il vous plaît.
Enseignant-chercheur à l'université de Lausanne, quoi.
Ouais, c'est ça. De Fribourg, s'il vous plaît. Bon, et avant que Noller ne nous lâche complètement, je crois qu'on a besoin de sommeil, on va se quitter là-dessus. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci aux participants d'avoir enregistré une deuxième fois ce podcast dans le sang et la douleur.
C'était difficile celui-là, oh, franchement. Purée,
hein. Non, mais franchement, on l'a bien tenu quand même. Hein. On peut être fiers de nous. Et donc, je vous dis à tous, à très bientôt sur DC Planète pour un prochain numéro des DC Podcasters. Merci, salut.
Adieu.
Adieu.
J'en ai converti un. Hein.